proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir David Shapira, qui vient nous parler de ses deux derniers ouvrages, 16 puis 12, idées reçues sur le judaïsme, paru chez Auteurs du Monde. Bonsoir David.
Bonsoir Sandrine.
C'est un plaisir de vous retrouver parmi nous. Vous venez spécialement d'Israël ou presque?
Oui, c'est un plaisir partagé en fait, parce que je sais que vos émissions sont de grande qualité intellectuelle, historique. C'est toujours des sujets qui nous intéressent et qui nous préoccupent beaucoup.
Alors justement, vos ouvrages m'ont beaucoup intéressé, mais auparavant, on va essayer de donner quelques mots de présentation pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas parmi les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, où vous avez grandi avant de poursuivre vos études en Israël. En 1990, vous y avez obtenu un diplôme national d'enseignant en études rabbiniques à l'Institut Lifshitz de Jérusalem. En 1999, vous avez intégré l'Université hébraïque de Jérusalem, où vous avez étudié l'histoire juive. Et après un doctorat consacré à l'œuvre du grand rabbin Jacob Kaplan et un post-doctorat sur l'antisémitisme en France, vous avez passé une licence de droit à Jérusalem avec une spécialisation en juridiction rabbinique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages inspirés de vos recherches, une biographie Jacob Kaplan, un rabbin témoin du XXe siècle paru en 2007 aux éditions Albin Michel, et les antisémitismes français publié en 2011 aux éditions Le Bordelot. En parallèle, vous avez mené une carrière de journaliste puis de guide. Vous résidez actuellement à Bethel en Israël et vous venez régulièrement à Paris. Un parcours impressionnant quand même.
Oui, tout est presque parfait, sauf les lieux de résidence. Malheureusement, d'accord, je n'ai pas grandi à Neuilly-sur-Seine, mais dans un HLM à Angers-Montmorency.
Ah d'accord, alors j'ai raté cette information.
Je n'habite plus Bethel depuis quelques années, mais oui. Batiam. Mais c'est presque d'accord, pareil, sauf que l'un est près de la mer et l'autre était dans les montagnes. Voilà, mais mis à part ça, c'était parfait Sandrine, tout était correct. Oui, c'est un parcours avec une énorme attirance pour l'histoire, et en particulier l'histoire juive. Mes parents étaient antiquaires, donc il y avait quand même un peu de génétique là-dedans. La recherche, en fait, tout d'abord des textes. J'ai passé 6 ans d'études à la yeshiva, où j'ai entrepris des études rabbiniques pour essayer aussi de découvrir, de comprendre nos textes. Et à l'époque je voulais être rabbin. En fait, à 18 ans, j'avais décidé d'être rabbin. Donc j'avais été rue Vauquelin, je m'étais renseigné aussi à Londres au Hebrew Union College, mais je me disais que pour être rabbin, le mieux pour étudier le pays naturellement adapté pour l'étude, c'était Israël. Et à cette époque, comme aujourd'hui, quand on veut vraiment étudier le Talmud particulièrement, eh bien, il n'y a pas mieux, je dirais, que la structure d'une yeshiva. Et j'ai passé 6 ans à étudier le Talmud et la loi juive, pour faire un parcours du moins étudiant, rabbinique, parce que ça me donnait aussi un cadre pour des examens, et évidemment avec un cursus pour être enseignant de Bible et de loi orale, voilà, grosso modo. Mais j'avais toujours, après ces études de yeshiva où j'ai commencé à travailler, j'avais toujours cette envie d'étudier l'histoire. Ça me manquait, c'était vraiment un côté qui manquait aussi, évidemment, dans les études de yeshiva, où c'est pas des études historiques du tout, tout est mélangé un petit peu. Et il a fallu attendre quelques années pour que je puisse m'inscrire au départ avec des études par correspondance que je travaillais, et puis le master pendant que je travaillais, et le doctorat pendant que j'ai travaillé, tout ça, et le post-doctorat, etc. etc. Voilà.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est la complémentarité d'études rabbiniques, d'études historiques et d'études du droit rabbinique, et qui fait que, par rapport à l'actualité qui est la vôtre aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même un bagage. Alors, votre actualité, c'est quoi ? C'est la parution de 2 ouvrages, 16 idées reçues sur le judaïsme, mythes et réalités du peuple juif en 16 questions, qui a été complété par 12 autres idées reçues sur le judaïsme. Et ces ouvrages visent à rétablir des vérités historiques face à des idées profondément ancrées dans l'inconscient collectif depuis des siècles à propos de la civilisation juive. Vous y abordez les sujets fondamentaux de l'histoire biblique et talmudique du peuple d'Israël en vous appuyant sur des sources bibliques et talmudiques apocryphes, ainsi que sur les travaux d'historiens comme Flavius Joseph. Vous déconstruisez des mythes et préjugés tenaces que l'on découvre infondés. Vous remettez en question des idées reçues telles que le monothéisme éternel, le célibat divin, l'interdiction des sacrifices humains, la sacralité du kotel, la prohibition de la prostitution ou encore la résistance héroïque de Masada. Donc, C'est quasiment hein, 28 idées reçues. Et au total, ces mythes sont déconstruits avec des sources solides à l'appui. Ces travaux donnent naissance à des essais tout sauf politiquement corrects, mais d'une grande richesse intellectuelle et d'une lecture stimulante. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du premier ouvrage qui a donné lieu au second ?
Bah écoutez, c'est tout simple. Et, à un certain moment de ma vie, il a fallu que je travaille. Je travaillais évidemment avant, mais j'ai eu l'opportunité pendant... Mes études de droit, je me destinais à être avocat. Et quand j'ai fait ce stage d'avocat, je me suis énormément ennuyé. Je me dis, c'est pas possible. Donc, j'ai été réétudié encore 2 ans pour être guide à l'école de guide. Et puis, j'ai commencé à guider beaucoup de personnes qui sont aussi intellectuellement de haut niveau. Mais mes clients, si vous voulez, me sortaient des phrases toutes faites, des idées préconçues, des idées même stéréotypées, de tout genre. Et je me disais, mais historiquement, j'avais besoin à chaque fois de rectifier. Et puis, je me suis dit, ben, je vais un jour mettre toutes ces fausses idées par écrit. C'est-à-dire juste l'idée qui était fausse, la mettre par écrit. Et c'est comme ça que j'ai fait une liste de 40. Donc là, on est arrivé à 28, il y en a encore à peu près 12 ou 13. Et un jour, le corona est arrivé, l'épidémie du coronavirus est arrivée. Et j'ai été en chômage forcé. Et un projet qui était celui d'écrire, un peu de développer pourquoi ces idées reçues n'étaient pas correctes d'un point de vue historique. Pourquoi elle ne correspondait pas à la réalité, encore une fois, historique, et même du judaïsme. Eh bien, j'ai compris que cette épidémie allait durer longtemps. Effectivement, elle a duré longtemps. Elle a duré 2 ans en Israël avant que les touristes ne soient autorisés à revenir dans le pays. Et c'est là que j'ai pris, si vous voulez, le taureau par les cornes, et j'ai commencé à écrire sur ces idées. Je ne voulais pas dépasser 10-15 pages par idée parce qu'il y a des livres entiers, des fois, qui méritent d'être écrits sur ces chapitres ou qui ont déjà été écrits. Et en fait, ça donnait, si vous voulez, un grand manuscrit qu'on m'a conseillé de diviser en 2. Et le premier livre traite de la période biblique, c'est-à-dire la Bible et la période talmudique environ jusqu'au 5e siècle de notre ère. Et le second ouvrage, lui, s'attache au Moyen-Âge et à des idées contemporaines. Donc, si vous voulez, chaque livre a sa spécificité. Évidemment, ce n'est pas les mêmes sources pour chaque livre, mais tout ce que j'affirme et toutes les thèses que j'avance sont appuyées par des sources. Donc, j'invite à tous ceux qui veulent contester ce qui est écrit à venir et à amener aussi leurs sources ou contester même les sources. Mais voilà, pour les idées sur la Bible, j'ai amené la Bible. Des fois, on la lit mal, la Bible. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est un ouvrage, je dirais, si on peut parler comme ça de la Bible, qui est très, très mal lu et très mal étudié. D'ailleurs, même dans les grands yeshivotes, la Bible, c'est maximum une demi-heure d'études par jour. En général, on étudie le Talmud toute la journée. C'est très, très mal appris, enseigné. Et on la lit, on l'interprète toujours très, très mal. Et souvent, on l'interprète avec des commentaires qui ont 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, après que le texte ait été rédigé, ce qui fait qu'il y a quand même des anachronismes et des aberrations qui sont évidentes, mais qu'on répète.
Alors, je vais vous poser une question à ce sujet, justement, parce que vous avez dit contestation, contester, et on va évacuer l'idée tout de suite. Par rapport à ceux qui pourraient vous dire que pourquoi ce livre en ce moment, il dérange peut-être nos certitudes, notamment au niveau des croyants, qu'il y a un regain d'antisémitisme, et c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment en France, et que c'est peut-être pas le moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ?
D'abord, c'est jamais le moment, oui. Premièrement, parce que l'antisémitisme, vous le savez, nous le savons, c'est un phénomène qui, malheureusement, est toujours présent. Et deuxièmement, ce n'est pas un livre antisémite. Voilà, ça c'est... ce n'est pas un livre antisémite, bien au contraire. C'est un livre qui essaye de remettre, d'un point de vue historique, les idées que nous avons reçues. Moi-même, j'en fais partie, évidemment, en étudiant à la yeshiva, en étudiant à l'école juive. On nous apprend des choses qu'on ne conteste pas parce que c'est presque des dogmes ou des axiomes. Et puis on se rend compte, quand on fait des études d'histoire, eh bien que ce n'est pas tout à fait la réalité. Et cette réalité, je ne l'ai pas inventée non plus. Elle est dans les textes. Et que voulez-vous, quand je vous donne juste un exemple, qui est un exemple très, très rapide. Lorsqu'un roi qui s'appelle Josias, un roi de Judée, en -622, on nous rapporte dans la Bible que dans le cadre d'une réforme pour instaurer le monothéisme et pour instaurer la centralisation du culte, détruit une maison de prostituées qui était collé au temple de Jérusalem et qui fonctionnait, Ça veut dire que quand un roi détruit une maison de prostituées, ça veut dire que la prostitution, non seulement elle existait, mais elle était institutionnalisée, elle était officielle. Et tous ceux qui se rendaient au temple, en pèlerinage, ne pouvaient pas ne pas voir cette maison qui existait. La seule chose qu'on ne sait pas, parce que la Bible ne nous dit pas à qui ces jeunes femmes étaient destinées, aux prêtres ou alors à l'ensemble du peuple, mais ça veut dire que pendant des centaines d'années, il y a eu, oui, une prostitution qui est officielle, malgré, évidemment, que le texte, je parle du Pentateuque, hein, de la Torah, nous interdit, évidemment, toute forme de prostitution. Mais dans les faits, c'était quelque chose qui existait, c'est un phénomène qui existait, de même que le monothéisme qu'on croit...
Alors, on va y revenir, oui, si vous le voulez bien. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé vos ouvrages, parce que, finalement, ils sont les plus fidèles à la tradition juive, parce que source à la pluie, avec cette exploration méthodique et sans préjugé de l'histoire biblique, rabbinique et talmudique du peuple d'Israël, eh bien vos ouvrages donnent du sens et nous permet sans doute de revoir des choses qu'on ne savait pas ou qu'on s'imaginait être vraies. Donc merci pour ça. C'était ça aussi un peu l'idée, hein.
Oui, évidemment, c'était de remettre les choses à leur place et d'essayer un petit peu... encore une fois, d'essayer de contextualiser les choses. Vous savez, j'ai tellement de touristes qui m'ont dit le mur des lamentations, l'endroit le plus sacré pour les juifs, le lieu le plus sacré. Ben non, c'est-à-dire, c'est tout bête, mais le lieu, il existe un lieu le plus sacré pour les juifs qui se trouve là, sur la roche, là où se trouve justement le dôme du rocher, le dôme en or que tout le monde aperçoit à Jérusalem lorsqu'il vient en visite. Mais ce mur-là, ce mur qu'on vénère, qu'on adore, et tout simplement un mur de soutien qui a été construit par un roi qui était cruel, qui était illégitime et qui n'a pas de valeur. Il a une valeur symbolique, mais sûrement pas de sacré. Et ça, c'était très important. C'est des choses, je dirais, pour moi, c'est le ABC, pour moi, qui sont des choses évidentes. Justement, quand on fait un peu d'archéologie et d'histoire de l'archéologie, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on a transformées. Alors, vous savez...
Alors, pourquoi ?
Qu'on a besoin de symboles. Oui. Parce qu'on a besoin de symboles.
Et qui perdurent autant de génération en génération.
Oui, c'est ça. Alors, oui et non. Par exemple, je prends Masada, c'est le symbole de l'héroïsme. Il est vrai que...
Le dire, hein, vous l'expliquez, et ça aussi c'est passionnant. Vous dites, pour résumer, hein, que la résistance de Masada est un mythe. Et vous expliquez ce que disent les sources historiques à ce sujet, et finalement ça bat en brèche ce qu'on pensait.
Ouais, la résistance, entre guillemets, de ces hommes qui ont préféré tuer leurs enfants, tuer leurs femmes et se tuer eux-mêmes plutôt que se battre enfin contre les Romains, parce que c'était le but, l'objectif de leur vie, c'est pas tout à fait un mythe, mais même l'État d'Israël, voilà, je prends comme exemple, l'État d'Israël, vous savez, ce mythe-là, je reviens juste un petit peu en arrière, au moment de la révolte du ghetto de Varsovie. Donc,
je peux vous interrompre ?
Bien sûr.
Pourquoi idée reçue et pas mythe, justement ?
C'est une bonne question. Parce que ce sont des idées qui sont tellement, tellement ancrées. C'est pas tout à fait un mythe, parce que préférer mourir plutôt que devenir esclave, c'est peut-être de l'héroïsme. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que Masada était un besoin. On avait besoin de le transformer justement en symbole, en mythe, dans les années 43, en avril 43, parce qu'il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, et qu'en Palestine de l'époque, les jeunes juifs sionistes palestiniens avaient eux aussi besoin d'un mythe. D'un mythe, mais qui ne se déroule pas en diaspora, en galoute, là où les juifs sont censés justement ne pas se défendre, et être faibles et courber les chines. Ils avaient besoin d'un mythe en terre d'Israël. Et là, c'est là qu'on a transformé Masada en mythe, à tel point que à partir des années 50, il y avait des événements, des cérémonies militaires de Tzal, où on prêtait serment, où tout le monde disait « Masada ne tombera pas une seconde fois ». Bon, les jeunes sionistes palestiniens des mouvements de jeunesse qui, en 43, 44, 45, avaient besoin de faire naître un mythe à Masada par rapport aux différentes révoltes des ghettos d'Europe de l'Est, n'avait pas lu toute l'histoire de Masada d'abord et toute l'histoire, le contexte de la grande révolte de Jérusalem. Or, quand on lit Flavius Josèphe, et on le lit, les historiens le lisent un peu, on se rend compte, peut-être maintenant je vais spoiler un petit peu le chapitre, que les résistants, entre guillemets, qui étaient à Masada, étaient ce qu'on appelle des sicaires. Des sicaires, c'est un petit groupe de zélotes, donc de révoltés, qui, entre autres, ne faisaient que de tuer ou d'assassiner, plutôt à Jérusalem, des juifs qui étaient considérés à leurs yeux comme des collaborateurs ou qui ne voulaient pas combattre contre les Romains ou qui étaient pour un dialogue avec les Romains et empêcher que Jérusalem soit détruit. Donc, ces sicaires sont chassés eux-mêmes par les zélotes de Jérusalem. Ils sont chassés parce qu'ils assassinent le grand prêtre de Jérusalem. Et ils se réfugient, non pas des Romains, ils se réfugient des zélotes, c'est-à-dire des Juifs qui se révoltent contre les Romains. Ils se réfugient à Masada pour ne pas être tués par d'autres Juifs, parce qu'eux-mêmes tuent des Juifs. Voilà, dans Flavius Joseph, il y a un récit qui dit que ces sicaires à Masada ont besoin de nourriture. Ils font une descente à En-Gedi, ce qui est un village juif, et ils tuent, ils assassinent 700 hommes, femmes et enfants pour piller le village. Donc, ce n'est pas des gens bien. Ce n'est pas des gens bien parce qu'en plus, et ça, c'est à l'encontre des Juifs du ghetto de Varsovie qui ont pris les armes et qui sont morts, les armes à la main, au moment où il faut prendre les armes, au moment où les Romains sont prêts à conquérir cette forteresse de Masada, ils se rassemblent et ils vont tuer de leurs propres mains les enfants qu'ils aiment, les femmes qu'ils aiment, et ils vont se tuer eux-mêmes. Alors vous savez que dans le judaïsme, nous qui sommes extrêmement attachés à la vie, nous qui disons qu'il faut tout profaner, même le jour du Kippour, pour sauver une vie, nous ne pouvons pas admettre que des personnes qui ont encore une chance peut-être de vivre, et même peut-être esclaves, puissent porter atteinte à leurs proches et à eux-mêmes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les rabbins n'ont jamais rapporté l'histoire de Masada.
Alors c'est passionnant, mais je me fais quand même l'avocate du diable parce que peut-être que quelqu'un qui nous écoute va avoir cette remarque de la véracité des propos rapportés par Flavius Joseph. Chez les historiens, on sait que tout n'est pas vrai, que c'est des commandes spécifiques et que on ne peut pas prendre au premier sens, au sens littéral, tout ce qu'il dit. Vous, votre intérêt, c'est que vous, en fait, dans vos ouvrages, ces deux tomes, c'est que vous recoupez avec d'autres histoires.
Bon, tout d'abord, prenons par exemple l'exemple de Masada, oui. qui est un exemple qui a frappé, qui est traumatisant. Hein. Ces personnes, on parle de 1000 personnes qui se sont tuées, de façon même qui réveille un peu le respect des Romains. Les Romains, quand ils rentrent, Flavius Joseph raconte qu'ils étaient ahuris et même, je dirais, perplexes quant au courage de ces gens qui ont eu, entre guillemets, encore une fois, le courage de se tuer et de tuer leurs proches. Flavius Joseph, évidemment, est un homme qui est considéré comme un traître de par l'ensemble du monde juif, mais qui nous a laissé un héritage qui est comparable à une Bible. C'est-à-dire, sans lui, on ne saurait rien sur cette période, et même sur la période qu'il a précédée, c'est-à-dire sur le roi Hérode, et il nous apprend aussi beaucoup de choses sur les Maccabées, en parlant de Hanouka, énormément de choses. Il vient nous compléter... Et vient apporter aussi, innover une série de connaissances absolument incroyables. Vous avez raison, Flavius Joseph essaye, dans son récit, de se justifier. C'est-à-dire que lorsqu'il parle des Romains et des révoltés, des zélotes, évidemment, il dit à chaque fois, moi j'avais raison, moi j'ai essayé de les convaincre, j'ai essayé de les raisonner, ils ne m'ont pas écouté, c'est eux qui ont amené la catastrophe. Vous avez raison qu'il faut prendre un peu de recul et il faut être extrêmement prudent.
Là, Parce que c'est votre démarche, c'est ce que vous faites dans...
Mais il s'avère que les faits sont exacts. C'est-à-dire, il y a une chose qui est très importante d'ailleurs quand on lit Flavius Joseph, c'est le nombre de... Les chiffres qu'il avance à chaque fois sont très probablement des chiffres qui sont... énormément exagéré, parce qu'il parle plus de certaines batailles ou de certaines guerres fratricides en dizaines de milliers de morts. Ça semble un peu incroyable. À Jérusalem, la grande révolte, il parle 1 million de morts. Ça semble peu probable, vu que Jérusalem ne pouvait pas accueillir autant de monde. Ça, il faut être très prudent au niveau des chiffres. Mais au niveau des faits, grâce à Flavius Joseph, dans l'archéologie, on a retrouvé des choses incroyables. C'est pas dans le livre, mais quand on a retrouvé... le chemin qui mène de la piscine de Siloé jusqu'au temple, le chemin que prenaient ceux qui pèlerinaient au temple, ceux qui venaient pendant les 3 fêtes de pèlerinage, on a découvert aussi les égouts en dessous. Or, quand on a découvert les égouts en dessous, on a retrouvé des squelettes, des jarres et des casseroles, des éléments de cuisine. Et les archéologues se sont demandé, mais qu'est-ce que font des éléments de cuisine? Et qu'est-ce que font des squelettes humains dans les conduits des égouts de Jérusalem qui dataient de 2000 ans, qui dataient du roi Hérode? Eh bien, un archéologue a dit, « Oh, mais il me semble que j'ai lu quelque chose là-dessus. Attendez, attendez, ça doit être dans Flavius Josèphe. » Et là, c'est les archéologues aujourd'hui qui vont reprendre le livre de Flavius Josèphe et qui découvrent que les derniers révoltés, ceux qui n'avaient pas encore été massacrés par la terrible répression romaine, s'étaient cachés avec de la nourriture dans les conduits, il le dit Flavius Josèphe, dans les conduits des égouts de Jérusalem, et sont morts de faim, parce qu'après avoir consommé ce qu'ils avaient pris, c'était pas... Et ils sont morts dans les égouts, et Flavius Josèphe dit nombreux sont qui sont morts. Et bien, on retrouve des squelettes. Donc, sur les faits...
Ça reste une source historique de premier plan.
Une source qui est indéniable. Masada, il n'y a que lui qui en parle, oui. Et on en retrouve le rocher. Gamla, c'est pareil. Gamla, c'est une ville dans le Golan aussi, où 6 ans avant, eh bien, les combattants se sont jetés avec leurs femmes, leurs enfants, dans le vide pour ne pas tomber vivants aux mains des Romains. C'est une source intéressante. Moi, j'appelle ça la troisième Bible. Je dis ça aux chrétiens. Je dis, nous, on a l'Ancien Testament, nous, les Juifs. Vous avez le Nouveau. Et on a une troisième Bible qui s'appelle Flavius Josèphe. Parce que c'est un trésor, un puits de science. Évidemment, il a derrière ça un objectif, celui de s'innocenter, celui de se blanchir, parce qu'il n'a pas voulu mourir. Il a préféré tomber vivant aux mains des Romains, mais il a été nommé par Vespasien, donc le général de l'époque, qui plus tard sera empereur. Il a été nommé pour continuer la guerre avec Titus et surtout noter les batailles et les événements et les faits. Car les Romains, lorsqu'ils menaient de grandes campagnes militaires, prenaient toujours avec eux un historien qui écrivait l'histoire donc de leur bataille, de leur conquête, pour justement que cette histoire se perpétue et reste dans le domaine, je dirais, de l'humanité. Vous savez, Flavius Josèphe, d'ailleurs, c'est grâce à des chrétiens qui ont recopié les manuscrits qu'on a redécouvert ces livres qui ont fait l'objet d'intérêt seulement à partir du milieu du 19e siècle. Avant, personne ne connaissait Flavius Josèphe.
Comment avez-vous sélectionné les idées reçues sur le judaïsme? Est-ce que c'était difficile de n'en choisir que 28?
Alors, il y a des sujets, par exemple, que je ne voulais pas évoquer. Par exemple, des sujets qui touchent à la Shoah. Parce que c'est encore trop douloureux, c'est encore peut-être trop proche. Et ça, je ne voulais pas, par exemple, en parler. Donc, je me suis abstenu, bien qu'il y a beaucoup d'idées reçues, de mythes qu'on rapporte sur la Shoah. Et beaucoup de choses qui restent, je dirais, pas un mystère, mais des questions sur certains secteurs qui ne faisaient pas partie, par exemple, des maquis. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais j'ai pris, si vous voulez, sur une liste d'environ 40, ceux qui revenaient le plus, ceux qui étaient ceux qui m'intéressaient aussi le plus. Mais c'est évident que je n'ai pas encore terminé, je ne sais pas si je terminerai... parce qu'il y en a sûrement d'autres, j'en découvre encore. Je ne sais pas s'il y aura un troisième ouvrage. Et il y a un troisième ouvrage d'ailleurs qui doit être publié, mais pas sur des idées reçues. Ce sera en avril 2025. J'en parle très brièvement dans l'un des chapitres sur le prosélytisme juif, c'est-à-dire l'histoire de la conversion au judaïsme. Mais ça, ce sera un livre sur un phénomène religieux, donc la conversion au judaïsme. Et ce phénomène-là, de la Bible à nos jours, c'est-à-dire comment ça a commencé, comment ça a évolué, comment nous étions des prosélytes acharnés et même violents, et même guerriers, et comment nous nous sommes petit à petit quasiment interdits à convertir des non-juifs. Donc j'essaye d'analyser un petit peu le processus. Voilà. Et puis il y a un projet qui est en œuvre aussi sur la condition de la femme juive dans le judaïsme aussi, de la Bible à nos jours, et vous avez raison de hocher la tête, parce que même si je pensais connaître un petit peu d'éléments sur ce sujet, il s'avère que j'ouvre une boîte de Pandore qui est très douloureuse, et voilà, je me pose des questions sur les discours d'aujourd'hui, voilà. Enfin, tout ça, c'est des projets qui sont des projets concrets, hein, qui sont déjà en œuvre, mais ça viendra en 2025.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de David Shapira, qui nous parle de sa double actualité, la parution de 16 idées reçues sur le judaïsme et 12 autres idées reçues sur le judaïsme, de tomes qui viennent de paraître chez auteurs du monde. Alors j'aurais envie de discuter avec vous du contenu, mais on va survoler quelques idées, et notamment celle du monothéisme. Dans les études juives aujourd'hui, c'est un sujet qui est important, qui rebat un petit peu les cartes, et vous vous expliquerez clairement que le monothéisme est le résultat d'une lente évolution et ce n'est pas une révélation immédiate abrahamique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
J'ai constaté qu'il y avait quelque chose de très particulier dans cette histoire de « nous étions les premiers à être monothéistes ». Alors, on se rend compte que, évidemment, vous avez raison, dans le texte, Abraham, Isaac, Jacob, qui n'est pas, c'est pas encore un peuple, sont nos patriarches qui, eux, ont la révélation. Et vous avez après, en Égypte, après la sortie d'Égypte, conduite par Moïse, la révélation de 10 plaies, de l'ouverture de la mer Rouge, tout ça, c'est extraordinaire. On arrive aussi dans le désert. Et la première chose que va faire le peuple, les Hébreux, les enfants d'Israël, en fait, c'est un veau d'or. Et je me rends compte que, en fin de compte, quand on prend l'histoire, je dirais l'histoire de la royauté du peuple, c'est-à-dire une histoire qui commence à partir du livre de Samuel, donc on peut dire à partir de Saül, David et Salomon, très très rapidement, Salomon, qui est encore une fois l'homme le plus sage de la terre, l'homme le plus intelligent, l'homme qui parle aux animaux, l'homme va plonger dans une idolâtrie qui en fait ne cessera jamais. C'est-à-dire qu'à partir de moins 950, moins 920, bien que Salomon construit un temple à l'éternel Dieu unique, il y a des cultes idolâtres qui sont pratiqués dans tout l'ensemble du royaume. Et ça continue pendant des siècles. Et je me rends compte que pendant des siècles, certains rois de Judée, je ne parle pas du royaume d'Israël qui est complètement idolâtre jusqu'au bout, mais certains rois de Judée comme Ézéchias, Josias et un autre, tentent de faire des réformes qui vont dans le sens d'un monothéisme et d'une lutte acharnée contre les prêtres idolâtres. Et ça ne marche pas. À chaque fois, ces réformes sont un échec cuisant. Alors, il y a un culte à Yahvé, un culte à Dieu, mais il y a des cultes parallèles, des fois pratiqués dans le temple, des fois hors du temple, qui sont des cultes à des dieux ou des déesses étrangères, comme le Baal, qui est souvent appelé dans la Bible, comme Asherah. Et là, je me rends compte, en fin de compte, que après la destruction du royaume de Judée par Nabucodonosor en moins 586, il y a un traumatisme terrible en exil. La Babylonie devient la Perse. La Perse, il y a toutes sortes de philosophies. Et quand le peuple revient petit à petit à Jérusalem, c'est là vraiment qu'il devient réellement et totalement et absolument monothéiste. Pardon. Et donc je me dis, si on était monothéiste depuis le début, comme la Bible le prétend, comment se fait-il que pendant des siècles, nous avons été polythéistes ? Voilà, j'essaie d'expliquer, j'essaie d'amener une raison, c'est pas la raison. J'essaie peut-être de réfléchir sur des influences de culte ou de philosophie perse à l'époque, où il y a une dualité entre le bien et le mal, les ténèbres, la lumière, un paradis, un enfer, une force unique. Il faudrait... Vous savez, et je le vois très bien quand j'écris sur la condition de la femme juive dans le judaïsme, nous sommes aussi influencés par les différentes cultures des peuples qui nous entourent. Ceux qui imaginent une seconde que nous avons vécu pendant des siècles sur une terre dans une bulle complètement hermétique à tout ce qui se passe autour de nous, je pense qu'ils ont une très très mauvaise idée de l'histoire juive. Et il suffit de voir comment nous nous habillons, ce que nous mangeons entre le sushi et l'hamburger pour comprendre que nous sommes tous, nous tous, influencés par des cultures qui sont des cultures environnantes. La fête de Hanouka, puisque maintenant nous sommes en plein dedans, c'est un combat pour faire revenir notre culture, notre tradition, face à un courant hellénisant qui mettait en danger, si vous voulez, le monothéisme juif, la pratique des commandements juifs. Et nous sommes tout le temps influencés par les peuples qui nous entourent, pour le meilleur, mais aussi pour le pire.
J'aime bien cette formule entre texte et contexte. Eh bien, notre civilisation s'est élaborée. Vous avez cité le nom de Asherah. Alors, j'aime bien cette représentation ou Astarté, qui a partagé le trône divin avec le Dieu unique pendant des siècles. Vous expliquez que les origines de cette cohabitation dans la pensée religieuse juive, et c'est aussi une idée reçue que nous avions.
Alors, c'est un chapitre, en fait, qui a choqué, peut-être qui a peut-être le plus choqué mes amis croyants et pratiquants. Bien que ce n'est pas le but, encore une fois, ce n'est pas le but, mais il y a différents sites archéologiques où nous avons retrouvé ce qu'on appelle des autels, hein, A-U-T-E-L-S, où le nom de Dieu était gravé sur la pierre, et à côté de lui, sur un autre siège, le nom d'Achéra. Ce qui laisse penser aux archéologues que Dieu n'était pas célibataire, mais marié à une déesse, qui elle représentait la fertilité, la fécondation, l'abondance, et son mari, c'est un peu blasphématoire ce que je dis là au micro, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais il y avait un dieu qui était lui le dieu de la puissance, de la force, qui englobait tout, encore une fois toutes les autres forces, mis à part la fécondité, la fertilité, parce que ça c'est donné à une femme. Donc il y a un culte qui est vénéré à Achéra dans la Bible, mais qui est un culte qui est vénéré pendant des siècles. La Torah, le Pentateuque, est explicite, il faut combattre Achéra, parce que ce culte-là est ancré, profondément ancré, au sein du royaume d'Israël, du royaume de Judée. Il y avait des arbres, on sait qu'il y avait des cérémonies, on ne sait pas exactement comment ça se passait, il y avait du vin, mais le culte d'Achéra est un culte profondément, encore une fois, implanté, et vous retrouvez dans toutes les civilisations une déesse qui est la déesse de la fertilité, de la fécondation. C'est... Bon, encore une fois, nous ne sommes pas dans une bulle. Nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes... Le roi Salomon se marie avec 1000 femmes, entre autres pour conclure des alliances avec des peuples étrangers, comme faisaient les rois quand ils mariaient leurs enfants à des princesses d'autres royaumes. Donc, on vit avec les autres, on vit avec les Cananéens qui nous entourent.
Comment est accueilli le livre ? Vous avez fait plusieurs conférences, vous rencontrez votre public. Qu'est-ce qu'on vous dit après la lecture du livre, livres ?
Quand je présente le livre, j'essaye de ne pas choquer, parce que mon but n'est pas de choquer, mais mon but, c'est de rétablir une vérité historique. Le but n'est pas de... Parce que, tout compte fait, comme je le dis d'ailleurs à différentes reprises, si telle ou telle histoire du Talmud est authentique ou pas, on s'en fiche, en fait. C'est pas ça l'important. L'important... surtout dans le Talmud, c'est de comprendre quel est l'enseignement, quelle est la morale de l'histoire, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre, qu'est-ce qu'on veut nous dire, quel est le message. Et ce message, il est englobé, entouré par une histoire dont souvent l'authenticité n'est pas confirmée, loin de là. Donc je ne m'attaque pas à la sagesse ni au message, qui était un message merveilleux et formidable et qui est avant-gardiste, mais j'essaye de... Juste de replacer, vous avez raison, j'ai été agressé gentiment une ou deux fois ou trois fois en disant vous dites du mal, vous, quand vous dites vous déconstruisez, j'essaie juste de rectifier. Et si je dis, là encore c'est peut-être blasphématoire, mais que la révolte par exemple de Bar Korva, une révolte qui a duré 3 ans, entre 132 et 135, et qui a amené à la destruction, à l'élimination physique totale des Juifs en Judée, à plus de 600-700 000 morts. Ça a été l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire juive. À l'époque, le peuple juif de Judée comptait 900 000 à 1 million de personnes. Vous imaginez, les Romains ont massacré 600-700 000. C'est presque l'élimination totale. Eh bien, je dis, beaucoup de grands sages ont soutenu Bar Korva. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on a le droit de dire qu'ils se sont trompés parce que les conséquences de cette révolte, c'est l'exil, d'abord, c'est la diaspora, et puis ça a été quasi, on peut parler d'un quasi-effacement du peuple juif, c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là que la Judée est débaptisée et qu'on la nomme la Palestine, et que toutes les villes de Judée sont rebaptisées en nom romain. Donc vous voyez, la révolte de Bar Korva, même si elle a été soutenue par d'immenses sages, eh ben, 2000 ans après, ou 1900 ans après, on peut dire que c'était un échec. On a le droit de dire que c'était un échec, c'était une erreur.
Et puis, il faut dire aussi que ces mythes ne sont pas spécifiques à la tradition juive. Aussi, dans les autres traditions monothéistes, le christianisme ou l'islam, il y a aussi des idées reçues. Et que peut-être que ça pourrait être l'objet de prochaines réflexions.
Oui, mais déjà, je vais me fâcher avec une partie du monde juif. Donc, je pourrais écrire aussi sur beaucoup d'idées reçues, de mythes sur le christianisme. Il y en a beaucoup. J'essaie de les exposer lorsque je fais visiter Jérusalem à des chrétiens qui sont extrêmement d'ailleurs extrêmement choqués à la fin de leur visite en disant mais David tu nous as détruit 40 ans de catéchisme tu nous as tout remis en place et tu nous as tout détruit, tu nous as tout balayé. Et maintenant, tu nous as expliqué ça. Comment on fait quand on va, comment on va faire pour digérer? Ça va nous prendre des mois. Bon, mais disons que je vais limiter la casse et je vais essayer de me fâcher qu'avec une certaine partie du monde juif et pas le monde chrétien et le monde musulman. Là aussi, évidemment, plus les religions sont tardives et plus elles ont besoin aussi de miracles et de faits qui ne sont pas non plus ni historiques ni authentiques.
Alors justement, à qui s'adressent ces réflexions? À tous, aux curieux, aux plus jeunes, aux moins jeunes, à toutes les religions, aux croyants, aux mécréants?
À tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du peuple juif, aussi à l'histoire des sites touristiques bibliques en Israël, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup aussi, dans le second livre sur le sionisme, le début du sionisme, les luttes intestines entre les chassidim et ceux qui s'opposaient à la chassidoute. Il y a des chapitres sur la mode juive, vous savez, la mode vestimentaire juive, qui n'est pas du tout un vêtement juif. Enfin, voilà, c'est toutes les questions que me posaient les gens en disant « Mais pourquoi celui-là, il a un chapeau noir avec une redingote et des chaussettes noires ?» Et c'est ça l'habit juif. Voilà, j'essaie de me pencher sur cette mode vestimentaire juive, y compris une mode capillaire. J'essaie de remonter les sources. Enfin, je suis tombé sur certains ouvrages et j'ai découvert qu'en fait, c'était des vêtements tout à fait polonais que les nobles portaient et que les juifs qui prospéraient en affaires voulaient absolument ressembler, là encore, l'influence, à leur, aux autres nobles polonais qui avaient réussi et qui étaient riches, et puis prévenu la Révolution française avec la mode française. Les Polonais ont changé de mode, mais nous, les juifs, on est restés sur la même mode de la redingote et du Streimel.
C'est une question classique pour conclure cette émission, mais qui reste difficile. En une ou deux phrases, comment donneriez-vous l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire votre livre, vos livres, de les offrir, de se les offrir? Qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, je dirais que d'abord, pour moi, c'est d'abord 40 ans d'études du judaïsme, parce que je n'ai pas cessé d'étudier depuis l'âge de 15-16 ans, et j'en ai 59. Et c'est une réflexion de 40 ans d'études sur ce qu'on dit, sur la façon dont on étudie. Et la deuxième réponse, c'est si je mets au défi les personnes qui lisent chaque chapitre de ces livres-ci, ils n'ont rien appris à chaque chapitre, ben je leur rembourse le livre. Voilà. Je crois que c'est un bon argument.
Alors, c'est un très bon teasing. Ouais. Merci beaucoup, David Shapira, d'être venu dans notre émission parler de votre double actualité, la parution de 16 idées reçues sur le judaïsme, complété du volume 12 autres idées reçues sur le judaïsme.
Qui sort le 15 janvier. En fait, il n'est pas encore sorti officiellement, mais on peut se le procurer directement
chez Auteur du Monde.
Chez Auteur du Monde sur le site internet, et le 15 janvier dans les librairies.
Merci, à très bientôt.
Merci à vous. Au revoir et à bientôt.